Le thème de la prédication ce matin, c'est « Il est ressuscité ». À partir du passage de l'Évangile de Jean, au chapitre 11, les versets 24 à 26. « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Alors, on va demander au Seigneur de bénir sa parole ce matin. Père éternel, nous te rendons grâce, notre Dieu, pour ta parole que tu nous as laissée, Seigneur, cette bénédiction que nous avons, Seigneur, de consulter ta parole, Seigneur, et d'avoir tes écrits devant nous, d'avoir tes instructions, Seigneur. Nous te remercions ce matin de nous ouvrir l'intelligence afin que nous puissions profiter au maximum de cette parole, Seigneur, qu'elle puisse être un avantage marqué dans notre vie, afin que nous puissions l'appliquer dans notre vie, Seigneur, et que nous puissions continuer à t'adorer, Seigneur, en esprit et en vérité. Je te prie de me bénir, Seigneur Dieu, de bénir mes frères et sœurs ce matin. Permets que je puisse me retirer, Seigneur, et que toi, tu sois en avant, à l'avant-scène, Seigneur Dieu, et que c'est toi qui nous prêches, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Avez-vous déjà parlé à une personne et avoir eu le sens que la personne à qui vous parliez n'écoutait pas? Peut-être était-ce cet air absent dans leurs yeux qui était le premier indice, ou peut-être était-ce le 25 tu sais, quelqu'un qui parle qui vous répond Après le 25, peut-être vous avez eu un indice, ouais, peut-être que j'ai peut-être pas toute son attention, puis vous réalisez que ouais, il m'écoute pas vraiment là finalement. Il apparaît que beaucoup de gens aujourd'hui sont préoccupés et distraits. Nous menons plusieurs tâches de front et nous n'écoutons pas aussi bien que nous devrions. Peut-être notre génération souffre-t-elle plus que ses pauvres habitudes, ses adresses d'écoute, parce que on a en quelque sorte été rabougri, ratatiné par la culture du divertissement. Nous pouvons utiliser nos yeux, mais pas nos oreilles. Mais lorsque vous avez quelque chose de très important à dire, et si vous êtes un chrétien, vous croyez cela, qu'il n'y a rien de plus important que l'Évangile de Jésus-Christ. Ou comment pouvez-vous capter l'attention, l'oreille de cette présente génération? Comment pouvons-nous les convaincre qu'il n'y a rien d'autre de plus actuel, de plus pertinent, de plus à propos et vital que ce qui est trouvé dans ce livre appelé la Bible? Allons-nous utiliser quelque chose comme les techniques des vendeurs d'auto? Avons-nous besoin de nuancer notre langage? Devons-nous nous familiariser avec les dernières pop stars et les marottes courantes? Devons-nous engager ou amener des gourous de la publicité pour nous aider? Devons-nous utiliser des vidéoclips provenant des shows de télé? Devons-nous être des lecteurs avides des derniers livres sur la psychothérapie ou sur l'estime de soi? Est-ce la seule façon que nous pouvons être réellement pertinents? Certes non, et c'est parce que l'Évangile est actuellement pertinent et éternellement pertinent. Laissez-moi illustrer, laissez-moi vous demander, prétendons un instant que vous avez eu la connaissance la semaine dernière que vous allez mourir d'un cancer terminal et que vous n'avez qu'un mois à vivre. Mais maintenant, je vous dis que j'ai le traitement ou le remède pour vous débarrasser de votre cancer en dedans de 5 minutes. Est-ce que vous écouteriez? Certainement que vous écouteriez. Vous seriez certainement tout oui. Pourquoi? Eh bien, il y va de votre intérêt personnel, de votre santé, de votre bien-être physique. Laissez-moi saisir votre attention maintenant par un autre point d'intérêt personnel. Puis-je vous dire quelque chose qui va vous arriver? Je ne peux pas vous dire quand, mais je peux vous dire que cela va arriver. Vous allez mourir, je vais mourir. À toutes les 3 secondes, quelqu'un meurt. Le fait que j'ai pu obtenir votre attention plaide en faveur de sa pertinence. Le regard vitreux est parti. Maintenant, j'ai votre oreille, n'est-ce pas? Mais maintenant, écoutez, il y a un remède pour la mort. En fait, c'est ce que l'Évangile est. Aussi incroyable que cela semble, Dieu a pourvu un remède, une guérison pour la mort. Dieu a promis la vie éternelle. Non, ce n'était pas facile. Cela implique non moins qu'une intervention surnaturelle. Mais l'Évangile dit qu'il y a une personne qui est venue dans ce monde pour vaincre la mort. Mais comment a-t-il fait cela? Écoutez bien attentivement, donnez-moi vos oreilles et voici ce que j'espère vous entendrez et apprendrez de la parole de Dieu ce matin qui mettra la mort et vos plus grandes peurs en perspective. Considérons la résurrection de Jésus-Christ sous ces 3 perspectives. 3 points donc que nous allons aborder la résurrection. Les revendications personnelles faites par Jésus-Christ ou les revendications personnelles de la résurrection. 2e point, les merveilleux changements en raison de la résurrection. Et 3e point, la confiance assurée, l'espoir confiant à la lumière de sa résurrection. Donc, notre premier point, les revendications personnelles de sa résurrection. Quelqu'un racontait alors qu'il était jeune garçon. Il n'avait pas la télé à ce moment-là, elle n'était pas disponible dans l'endroit où il était quelque part dans le Yukon. Il écoutait un événement sportif à la radio. Il se rappelle en particulier le combat de boxe entre Sonny Liston et Cassius Clay, qui est devenu Mohamed Ali. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de cela. À un moment donné, dans la radiodiffusion, on le déclare gagnant, c'est-à-dire Mohamed Ali est gagnant du combat de boxe. Et le commentateur décrit ainsi le gagnant qui commence à danser dans le ring, dans l'arène, clamant qu'il était le plus grand. Je ne pense pas qu'il ait lu ce verset biblique dans Proverbe 27:2, « Qu'un autre te loue et non pas tes propres lèvres. » Maintenant, lorsque vous ouvrez votre Bible, vous avez Jésus qui fait des revendications plutôt étonnantes. En essence, il dit qu'il est le plus grand. Mais faisons attention ici de mal interpréter, parce qu'une chose que nous devrions savoir au sujet de Jésus-Christ, et nous le voyons tout au long de son ministère, il était extraordinairement humble. En fait, il dit dans Matthieu 11, 29, « Je suis doux et humble de cœur. » Il a dit qu'il était venu pour servir et non pour être servi. Vous ne trouverez pas de plus grand serviteur que Jésus-Christ. Qui peut oublier ce qu'il a fait dans la chambre haute alors qu'il lava les pieds de ses disciples? Peut-être vous rappellerez-vous ce péricope que nous pouvons lire dans Jean 13. Il n'y a pas de plus humble que Jésus. Nous devons nous rappeler cela lorsque nous écoutons son étonnante revendication. L'humilité de Jésus est en contraste frappant, n'est-ce pas, par rapport aux pharisiens, orgueilleux de son temps. Ils étaient tellement intéressés à leur propre éloge, mais pas Jésus. Mais Jésus a fait quelques revendications plutôt étonnantes. Dans l'Évangile de Jean nous en trouvons plusieurs. Entre autres, les 7 mentions de « Je suis ». Chacune d'elles est tout à fait étonnante lorsque nous commençons à y réfléchir. Par exemple, dans l'Évangile de Jean 8, verset 12, il dit « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Un autre passage dans Jean 6, 48, il dit « Moi, je suis le pain de vie. » Dans Jean 14, 6, il dit « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Dans Jean 15, « Moi, je suis le cep, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Mais voici ce qu'il dit d'autre ici, dans le passage que nous avons vu, plutôt ce matin que nous avons lu, dans Jean 11. Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Étonnant, me direz-vous? Vous avez saisi le mot « jamais ». C'est vrai, « ne mourra jamais ». Il y a beaucoup de gens qui font toutes sortes de revendications étonnantes, mais nous ne les prenons pas toutes au sérieux, soit qu'ils plaisantent ou soit qu'ils sont complètement fous, délurés. C'est intéressant que Jésus, qui fait cette revendication, « Moi, je suis la résurrection et la vie », eh bien, les gens, là, actuellement, au moment où il dit cela, le prennent au sérieux. En fait, ce serait difficile de ne pas le faire parce que, peu de temps après qu'il ait dit ces mots dans Jean 11, 43-44, il ressuscite un homme mort du nom de Lazare. Et il le fait d'une manière plutôt dramatique. Il dit « Lazare sort ». C'est tout ce qu'il a eu à dire. Et le mort sort toujours enveloppé de bandelettes, mais sans aucun doute, il est vivant. Il était mort depuis 3 jours. Et c'est une des inquiétudes que Marthe avait d'ailleurs. Le processus de décomposition était déjà entamé et son corps sentait, empestait déjà. Mais ce corps empesté est maintenant vivant et respire. Il a une réelle apparence de vie. Lazare était aussi en vie que vous et moi qui sommes assis ici ce matin. Ce miracle donne certainement de la crédibilité, n'est-ce pas, à ce grand énoncé « Je suis la résurrection et la vie ». Mais pour réellement comprendre pourquoi Jésus pourrait clamer à être la résurrection et la vie, vous devez comprendre Jésus lui-même. Après tout, c'est sa déclaration « Je suis ». C'est lui qui le déclare. Jésus a parlé de sa propre résurrection. Souvent de fois, il en a parlé comme quelque chose étant l'ombre dans l'Ancien Testament. Nous pouvons nous rappeler dans Matthieu 12, il en a parlé en rapport avec Jonas ayant été dans le ventre d'un grand poisson pour 3 jours. Ainsi, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Mais lorsque vous avancez dans la lignée du temps en rapport à Jésus-Christ et à sa vie, alors qu'il se rapproche de plus en plus de cet endroit appelé Golgotha, particulièrement la dernière semaine de sa vie, il commence à parler de plus en plus concernant sa mort, mais aussi de sa résurrection. Il les met ensemble. Voyons comment cela est mis en avant dans l'Évangile de Marc au chapitre 8. 3 fois Jésus, pouvons-nous dire, tire en quelque sorte le rideau et commence à parler très clairement, manifestement, concernant sa mort et sa résurrection. Au verset 31 du chapitre 8 de Marc, il commença alors à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Nous voyons aussi dans Marc 9, alors qu'il enseigne ses disciples concernant sa mort imminente et sa résurrection, dans Marc 9, au verset 31, il nous est dit « Car il enseignait ses disciples et leur disait, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Et encore une autre fois, de façon cette fois-ci encore plus définitive, dans l'Évangile de Marc au chapitre 10, les versets 33 et 44. Il nous est dit, « Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, le livreront aux païens, se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. » Donc, 3 fois dans un laps de temps de quelque 1 ou 2 jours, Jésus a prédit et a prophétisé non seulement qu'il mourrait, il nous dit quelques spécifications de sa mort, ainsi que les souffrances qu'il subirait, mais il nous dit aussi très clairement, n'est-ce pas, que je ressusciterai dans 3 jours. Maintenant, vous auriez pu penser que les disciples qui l'ont suivi pendant 3 ans, ils ont été avec lui jour et nuit pendant 3 ans, seraient bien préparés pour cela. On serait en mesure de prétendre ça, de penser cela. Il leur a dit non seulement une fois, mais 3 fois. Mais c'est comme s'ils n'avaient jamais rien entendu. C'est un rappel pour nous à savoir combien nous pouvons, en tant que chrétiens, être sourds et muets. Mais ce qui est même plus perplexe est le fait que ses ennemis semblent le croire plus que ses disciples. Ses ennemis étaient plus sur le qui-vive lorsque vient sa résurrection, car aussitôt qu'il est mort, et ensuite nous lisons à tout le moins qu'ils sont allés vers Pilate, lorsqu'ils sont allés vers Pilate, dans Matthieu 25, les versets 62 et 63, il nous est dit le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble trouver Pilate et dire « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit qu'il vivait, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. » Alors, ses ennemis se rappelaient de cela, qu'il avait dit cela. Maintenant, pensez-vous qu'ils étaient quelque peu effrayés à savoir que cela puisse être vrai? Pilate, seulement désirant être accommodant, il n'était pas cependant si accommodant lorsqu'il a placé cette inscription sur la croix, « Jésus, le roi des Juifs ». Les Juifs et les scribes ne voulaient pas que Pilate fasse cela, mais il l'a fait de toute façon. Cependant, ici, Pilate est très accommodant, pouvons-nous dire. Était-il apeuré? Après tout, il a vu Jésus de près. Et il y avait quelque chose concernant Jésus qui l'a rendu mal à l'aise, inconfortable. Après tout, il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Est-ce que celui-ci est réellement le roi des Juifs? Peut-être que Pilate a ouï dire quelques miracles que Christ a performés. Il a ressuscité au moins 3 personnes. Peut-il le faire pour lui-même et se ressusciter? Pourrait-il ressusciter des morts? Pourrait-il conquérir la mort? Est-ce que cela est possible? Nous devons l'arrêter. Mais ils oubliaient quelque chose, n'est-ce pas? Jésus est invincible. Vous ne pouvez arrêter Jésus-Christ. Et ce que Jésus a dit arrivera, arrive. Et il prouve indéniablement, incontestablement, irrévocablement qu'il est la résurrection et la vie. Le 3e jour, il ressuscite des morts et il ne mourra plus jamais. Il est réellement le premier à ressusciter entièrement dans la Bible, parce que tous les autres dans la Bible qui ont été ramenés à la vie sont retournés dans la tombe, mais pas Jésus. Comment pouvons-nous être si sûrs qu'il est ressuscité? Eh bien, c'est selon les Écritures. Selon ce que nous avons lu ce matin dans 1 Corinthiens 15. Ce qui nous amène à notre deuxième point, le merveilleux changement dû à la résurrection ou en raison de la résurrection. Lorsque nous pensons à de grands événements dans l'histoire de l'humanité, qu'est-ce qui vient à l'esprit? Eh bien, ici en Amérique, on a certainement, dans cette dernière décennie, le 11 septembre 2001, une catastrophe assez spectaculaire. C'est un grand événement et les choses ne sont plus les mêmes depuis cela. Là, c'est facile de constater parce que lorsque vous prenez l'avion, vous avez des mesures de sécurité extraordinaires qui sont prises. Un autre grand événement, si nous faisons un retour en arrière en 1945, avec le débarquement en Normandie appelé le jour J, avec le succès des Alliés, la carte de l'Europe a été changée. En fait, le monde entier a été changé. Nous pouvons dire que ce sont des grands jours dans l'histoire de l'humanité. Et d'importants changements ont pris place en raison de ces jours importants. Mais il y a des gens assis ici ce matin dont les vies ont été radicalement et merveilleusement changées. Non pas en raison de ce qui a pris place en 2001 ou sur les plages de Normandie en 1945, mais en raison de ce qui est arrivé à la croix et de ce qui est arrivé au tombeau. Ce sont les deux plus grands événements dans l'histoire biblique de la rédemption. Il y en a un autre à venir. Jésus reviendra. Mais le jour où Jésus est mort sur la croix et le jour où Jésus est ressuscité des morts ont formé le monde et la vie des gens beaucoup plus profondément que toute autre chose. Lorsque nous pensons au jour de la résurrection, peut-être la façon la plus facile ou la plus simple pour le mettre en évidence, en perspective, est ceci. C'est un jour de changement mémorable, dramatique, dynamique. Si nous tournons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28, c'est comme si Dieu veut capter l'attention du monde. Il débute avec un grand tremblement de terre. Et lorsqu'on entend une nouvelle d'un tremblement de terre, ce n'est pas normalement en principe, ce n'est pas une bonne nouvelle. Des gens meurent. Mais ceci est un tremblement de terre différent. Il n'est pas associé avec la mort, mais avec la vie, avec la résurrection de Jésus-Christ. La suite, nous lisons concernant cela ici comme changement et la tombe elle-même. Il nous est dit que la pierre a été roulée et qu'un ange y est assis, au verset 2. Et voici qu'il y eut un grand tremblement de terre. Et lorsque vous voyez un ange dans la Bible, attendez-vous à quelque chose d'important. Quelque chose de dramatique est sur le point d'être dit ou arrivera. Quelque chose de significatif dans l'histoire de la rédemption est souvent amené avec l'apparition d'un ange. Et cela est vrai ici. Et l'ange leur dit très simplement le premier changement majeur en rapport avec la résurrection est le changement de place, le changement d'endroit. Au verset 6 de Matthieu 28, il n'est pas ici. Très simple. Mais où est le corps? Où le corps est-il allé? Un corps mort ne peut marcher. Comment expliquez-vous la disparition du corps? Eh bien, cela est tout à fait simple. Encore, l'ange nous donne la réponse au verset 6 de Matthieu 28. Il est ressuscité. Et ici, nous avons ici un temps de verbe appelé un aorisme, un aoriste passif. Pour nous dire que c'est un événement qui est arrivé dans le passé, mais aussi pour nous dire que cet événement est unique. Quelque chose de très définitif est arrivé. Ce n'est pas un événement qui peut être réitéré, renouvelable. Il est mort une seule fois et il est ressuscité une seule fois. Et les anges, néanmoins ici, les invitent à voir par eux-mêmes. Il nous est dit « venez ». Et le terme « venez », c'est « douter », le mot grec, qui amène à voir de vos propres yeux, de votre propre visu. « Venez voir par vous-même où il était couché. Son corps n'est plus là. » Il les invite dans le tombeau. Vous savez que ce tombeau vide aura d'autres témoins. L'évangile de Jean nous dit que deux des disciples, Jean et Pierre, sont allés au tombeau et ont scruté de leurs yeux et trouveront que le corps est parti. Mais où est Jésus? L'évangile de Marc, au chapitre 16, au verset 7, nous aide. Il nous est dit, « Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'ils vous précèdent en Galilée. » C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Ils vont le voir dans leurs propres yeux. Et c'est ici où cela devient si difficile pour tous les contradicteurs. Il ne manque pas de témoins oculaires. Nous le voyons dans 1 Corinthiens 15, 5 et 6. Et il a été vu par Céphas, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois. Beaucoup de gens ont vu le Christ ressuscité. Des individus différents, des endroits différents, des temps différents, étendus sur une certaine période. Peut-être quelques mois. C'est assez convaincant, n'est-ce pas? En fait, comment Dieu aurait-il pu faire de plus? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire plus pour nous convaincre que son Fils est ressuscité d'entre les morts? Est-ce qu'il aurait eu plus de conviction s'il était apparu dans le ciel? Un changement de place, mais aussi il y a eu un changement dans le corps, n'est-ce pas? Jésus possède un corps différent. Oui, il ressemble beaucoup au corps qu'il avait. Jésus possède un corps différent. Il peut manger. Rappelez-vous, il a déjeuné sur la plage avec ses disciples dans Jean 21. Ainsi, c'est un corps qui peut manger et digérer la nourriture. C'est un corps physique. Mais dans 1 Corinthiens 15, il est décrit de plusieurs manières différentes pour nous laisser savoir que c'est un corps différent, un corps autre. Il est ressuscité, qui nous est dit, incorruptible, en gloire, en puissance. Il est un corps spirituel. Oui, c'est un corps physique, toujours comme l'ancien, mais il est dit un corps spirituel, très différent de l'autre. C'est un nouveau corps, c'est un corps ressuscité. Et vous voyez cela avec Jésus, rappelez-vous, il pouvait apparaître et disparaître à volonté. Il pouvait passer à travers les murs, les portes à volonté. Le corps a changé. Lorsque vous pensez à cet événement appelé la résurrection de Jésus-Christ, pensez à changement de place. Il n'était plus dans le tombeau. Il les retrouverait en Galilée. Changement de corps, il n'avait plus le même corps. C'était un corps autre, un corps spirituel. Mais pensez aussi à ceci, changement de cœur. Pensez à ses premiers disciples. Rappelez-vous à quoi ils ressemblaient à la suite de la crucifixion de Christ et ce à quoi ils étaient dominés. Et on peut penser aux disciples d'Emmaüs sur le chemin d'Emmaüs. La discussion qu'ils avaient entre eux, les deux. Ils avaient la peur, la panique, la douleur, le chagrin. Ils étaient quelque peu dépressifs dans la mesure que la dépression puisse être. Vous ne pouvez les blâmer dans un sens. Tous leurs rêves ont été brisés. Bien que la plupart de leurs rêves étaient charnels. Mais ils pensaient réellement que Jésus était venu pour installer un royaume physique, un royaume politique, comme David et Salomon. Ils auraient de l'or, de l'argent dans leur poche et ils rouleraient dans des chariots Cadillac. Eh bien, est-ce que c'est ce qui s'est produit? On ne peut pas dire que c'est exactement ça qui est arrivé. Ils anticipaient les meilleures places dans la maison. Et on se rappellera leurs arguments lorsqu'ils demandaient « Puis-je m'asseoir à ta droite, à ta gauche? » On se rappellera les fils de Zébédée. C'est la discussion qu'ils avaient. Mais il est mort. Il est mort. Et il est mort de la pire façon, de façon abominable. La mort de la croix. Il est mort de façon honteuse. Sur une croix, comment pourrait-il être le roi? Et comment un roi peut-il régner d'un tombeau, de sa tombe? La personne sur laquelle il misait, il comptait, était mort. C'était épeurant, effrayant, désillusionnant. Ce n'était pas ce que nous avions espéré, ce pourquoi nous avions prié pour et longtemps et ardemment désiré. L'Évangile de Jean, au chapitre 20, verset 19, nous dit « Le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. » Ils étaient peureux comme des lièvres, comme on dit au Québec. Mais tout cela changera. Comment pouvons-nous dire cela? Si nous nous déplaçons dans le livre des Actes, nous verrons l'ascension de Jésus-Christ. Et après qu'il fut monté au ciel, il y a ce jour de la Pentecôte où l'Esprit est venu. Et ensuite, vous lisez à propos de ses disciples, de ses apôtres, qui étaient si peureux, maintenant sont hardis, pleins de zèle. Vous les entendez prêcher dans Actes 2, dans Actes 3, 4 et 5. Encore, comment expliquez-vous cela? En dedans de 2 mois, Il prêchait maintenant avec courage, avec hardiesse, avec audace. Est-ce qu'ils ont suivi des conférences d'effort personnel? Est-ce qu'ils ont repris contact avec leurs sentiments intimes, intérieurs, profonds? Est-ce qu'ils ont consulté quelques gourous qui les ont aidés avec leur estime de soi? Qu'est-ce qui est arrivé? Comment expliquez-vous ce changement dramatique? Eh bien, vous devez les entendre prêcher. Vous devez écouter le contenu de leur prédication. Cela vous le dira dans Actes 2, 32. Écoutez ce qu'ils prêchaient. Ils prêchaient un Sauveur ressuscité. Ce Jésus, Dieu, l'a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Dans Actes 4, 33, avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Dans Actes 10, 40, Dieu l'a ressuscité le troisième jour et lui a donné de se manifester, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. Oui, quel changement! Quel changement dramatique! Pourquoi? Eh bien, en raison de ce seul événement, la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection pointe vers un changement important, un changement de place, un changement de corps, un changement de cœur. Mais vous savez quoi d'autre a changé? L'adoration a changé. Le focus de l'adoration a changé. C'était toujours l'adoration centrée sur Dieu. Il ne faut pas mal interpréter ici. C'était toujours Dieu au centre. Mais après que Christ soit ressuscité des morts, cela n'était pas seulement centré sur Dieu, mais centré sur Christ. Et la première personne qui nous aide dans ce sens de l'adoration de Christ est celui qui doutait. Et qui est celui qui doutait? Eh bien, c'est Thomas, l'apôtre. Vous vous rappelez certainement de lui, il ne voulait pas le croire, ce que les autres lui disaient. Il était dans le doute. Il ne pouvait le croire, à moins de le voir de ses propres yeux. Mettre ses doigts dans les trous des clous qui avaient percé les mains de Jésus. Mais lorsqu'il a vu le Christ ressuscité, qu'est-ce qu'il a dit dans Jean 20, 28? « Mon Seigneur et mon Dieu. » C'est un langage d'adoration. Ensuite, si vous tournez à la toute fin de l'Évangile de Luc, vous avez la dernière apparition du Seigneur après sa résurrection à ses disciples, dans Luc 24, 52. Qu'est-ce qu'ils font là? Pour eux, après l'avoir adoré, donc ils l'ont adoré, et ainsi cela devient l'adoration centrée sur Christ. Donc le focus de l'adoration a changé, mais aussi le temps de l'adoration a changé. Donc, nous avons le changement de place, le changement de corps, le changement de cœur, le focus de l'adoration qui change. Maintenant, nous avons le temps de l'adoration qui change. Pourquoi sommes-nous ici ce matin, le premier jour de la semaine? Pourquoi est-ce que c'est le dimanche? Avons-nous simplement sorti un jour quelconque du chapeau? Est-ce que cela s'est passé ainsi? Choisissons samedi, non. Lundi, non. Que pensez-vous de dimanche? Est-ce que c'est de cette façon que ça s'est passé? Eh bien, non. Cela a changé parce que Jésus est ressuscité des morts le premier jour de la semaine. Vous ne pouvez adorer le vendredi parce qu'il était sur la croix. Vous ne pouvez adorer le samedi parce qu'il est dans le tombeau. Vous ne pouvez adorer un Christ mort, mais vous pouvez l'adorer le premier jour de la semaine parce qu'il est vivant, il est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité le troisième jour. Et vous les retrouvez adorant Christ et Dieu le premier jour. Vous le lisez dans le livre des Actes. Le premier jour devient le nouveau jour d'adoration pour la communauté de la Nouvelle Alliance. C'est le jour du triomphe. C'est le jour de la victoire. Le dernier sabbat juif est un jour très triste, un jour très sombre, et comment pouvait-il en être autrement? Christ est encore mort, il est encore dans le tombeau. Mais le premier jour, il est ressuscité des morts. Lorsque les chrétiens ont commencé à changer leur jour de l'adoration, ils ont oublié quelque chose de très important. Ils ont oublié la signification de la résurrection. La quête personnelle de la résurrection, les changements merveilleux en raison de la résurrection et finalement la confiance assurée ou l'espoir confiant à la lumière de sa résurrection. Vous vous rappelez sûrement ce gros paquebot appelé le Titanic qui mesurait quelque 3 terrains de football en longueur. Il avait 11 étages de hauteur, à peu près comme l'édifice qu'ils sont en train de bâtir ici sur la rue Boulevard Québec. 646 000 tonnes, c'est un petit peu plus pesant que tous nous autres ici rassemblés. C'était le plus gros, le plus impressionnant paquebot en ce temps qui parcourait les océans. Mais il a sombré après avoir heurté un iceberg, un iceberg en français c'est un iceberg, un petit peu plus gros qu'un mouton de glace. Là, c'est un gros mouton de glace. Alors cela nous donne une image sérieuse de ce qui est arrivé à la civilisation occidentale, on pourrait dire ces quelques 50 dernières années. Nous avons navigué de manière céleste en haute mer, se sentant plutôt en sûreté et en sécurité, chevauchant dans les sommets du matérialisme. Au niveau de la richesse, nous sommes une des puissances industrielles. Nous chevauchons aussi à travers le paganisme. Nous pouvons le sentir pratiquement partout, à tous les jours, dans la pornographie, les endroits de débauche, dans les centres de divertissement, dans le sportmania. Nous naviguons dans les hautes mers, mais nous avons heurté quelques icebergs. La récession économique qu'il y a eu en 2008, le Titanic du matérialisme est en train de couler. Le Titanic du paganisme est en train de couler. Ces icebergs de dépendance, de perversion. Nous avons aussi heurté l'iceberg du postmodernisme. Lorsque les gens nous disent maintenant, vous ne pouvez être certain de rien. C'est une crise de la vérité. Nous ne pouvons plus croire personne, n'est-ce pas? Le Titanic est en train de couler. Le Titanic de la civilisation occidentale est en train de couler. Les gens sont en train de sauter dans des canots ou de s'accrocher à des épaves, essayant de trouver quelque sécurité. Peut-être que je vais essayer cette religion. Peut-être que la réponse se trouve dans le mouvement de l'estime de soi ou dans quelque sorte de thérapie psycho. Dans les statistiques, il est dit que chaque Américain dépense en moyenne 1 000 $ approximativement en consultation thérapeutique psychologique. Quel est le problème? Ils ont peur, ils sont anxieux, ils sont insécures. Et ce, en quoi ils ont mis leur confiance, ne leur donne pas le support qu'ils pensaient qu'ils auraient. La bourse s'est écroulée, Ils pensaient que cela leur apporterait une sécurité. Les gens se noient. Ainsi, où pouvez-vous trouver la sécurité, la sûreté? Eh bien, il n'y a qu'un seul endroit où nous pouvons la trouver, et c'est en Jésus-Christ. Sa résurrection a été appelée le Gibraltar. Et je me rappelle, lorsque j'étais plus jeune, il y avait une annonce qui passait, une annonce d'assurance, je crois, et ça disait que c'était la Prudentielle. C'est la Prudentielle d'Amérique. Ça disait que c'était la force de Gibraltar. Et Gibraltar, c'est une forteresse quelque part en Angleterre, je ne me rappelle pas dans quelle région, qui est imprenable, dans le sens, c'est sûr que de nos jours, mais dans le temps qu'elle a été bâtie, elle était imprenable. Alors c'est pour ça que c'est appelé la force de Gibraltar. Cela regarde comme étant assez stable et sécure. Nous parlons de son sang et de sa justice comme ce fondement solide. Oui, cela est très sécuritaire et ce l'est. Seulement l'Évangile procure cette sorte de sécurité, de sûreté que chaque personne veut désespérément. Quelles sont les trois plus grandes peurs ennemies que vous avez? Le péché. L'Évangile procure un remède pour le péché, le pardon des péchés. L'autre chose que la plupart des gens ne veulent pas admettre, mais ont peur ou devraient avoir peur, c'est la colère de Dieu. Les gens, en principe, tu parles de la colère de Dieu, tu te fais pratiquement rire d'en face. Mais l'Évangile procure là aussi la sécurité, parce que si vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes justifié. Et ce que vous avez comme résultat de la justification, vous avez la paix avec Dieu. Et ensuite, la troisième peur ou ennemi, il y a la mort. Cela fait en sorte que les gens ont peur. Si nous sommes honnêtes, à quelque part, nous avons peur de la mort. Nous avons tous peur de la mort. Mais l'Évangile procure là aussi la sécurité, la sûreté, n'est-ce pas? C'est ce en quoi consiste la résurrection. Jésus est vivant et je vivrai aussi. Vous voyez, l'Évangile nous procure la sécurité, la sûreté. Le salut que nous voulons désespérément. C'est pourquoi l'Évangile est une bonne nouvelle. Il y a tellement de mauvaises nouvelles. L'Évangile est une bonne nouvelle. Nous avons besoin de penser plus concernant le ciel et concernant ce jour, lorsque Jésus reviendra, parce qu'il nous sera donné un merveilleux cadeau, un nouveau corps merveilleux, un corps ressuscité. Et ce nouveau corps ressuscité rendra tout ce que ce monde offre avec tous ses gadgets attirants, ses plaisirs à court terme. Le nouveau corps portera la ressemblance de l'Adam terrestre, mais il portera aussi la ressemblance d'un homme dans les cieux, Jésus-Christ, le second Adam. Et ce sera un corps d'une magnificence spectaculaire. Il vivra éternellement. Pensez-y, il n'y aura plus de rides, plus de douleurs, plus de soucis de douleurs chroniques. Mais voici ce qui fait encore que ce sera plus grand. Non seulement que nous aurons un nouveau corps, mais nous aurons un nouveau corps joint à une âme parfaite. C'est ce que nous aurons. Voyons cela comme deux cadeaux. Un corps parfait uni à une âme parfaite. Et voici que ces entités aimeront faire, adorer et servir un Dieu parfait. Un jour, pensez-y, votre corps ressuscité, votre face ressuscitée, regardera la face ressuscitée de Jésus-Christ. Pensez-y, la Bible dit que nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons face à face. N'est-ce pas là une bonne raison d'être heureux le jour du Seigneur? N'est-ce pas là une bonne raison de prier « Seigneur Jésus, viens vite, Maranatha. Viens, Seigneur, viens. » Amen. Prions. Oui, Seigneur, Maranatha, viens, Seigneur, viens. Seigneur notre Dieu, nous désirons hâter ce jour lorsque tu viendras pour nous prendre avec toi, Seigneur, et nous amener dans ton royaume, sur ton territoire. Seigneur notre Dieu, en attendant, notre Dieu, nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement, Seigneur notre Dieu, reconnaissant que tu es un Dieu trois fois saint, Seigneur. Nous devons combattre le péché sous toutes ses formes, Seigneur. Nous avons à combattre le monde dans lequel nous sommes, Seigneur, notre propre nature et le diable, Seigneur notre Dieu. Mais nous savons, Seigneur, que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen.